Chapitre 2. La volonté, l'hôtel de Monsieur de Sartine, le coffret. Nous avons vu partir Balsamo. Gerrit l'emportait avec la rapidité de l'éclair. Le cavalier, pâle d'impatience et de terreur, couché sur la crinière flottante, aspirait de ses lèvres entrouvertes l'air qui se divisait devant le poitrail du coursier comme l'eau se fend sous la proue rapide. Derrière lui, comme des visions fantastiques, disparaissaient les arbres et les maisons. À peine s'il apercevait en passant la lourde charrette gémissant sur son essieu, dont les 5 chevaux pesants s'effarouchaient à l'approche de ce météore vivant qu'il ne pouvait regarder comme appartenant à la même race qu'eux. Balsamo fit ainsi une lieue à peu près, avec un cerveau tellement enflammé, des yeux si étincelants, un souffle si embrasé et si sonore, que les poètes de ce temps-ci l'eussent comparé au redoutable génie gros de feu et de vapeur qui anime ces lourdes machines fumantes et les font voler sur un chemin de fer. Cheval et cavalier avaient traversé Versailles en quelques secondes. Les rares habitants égarés dans ces rues avaient vu passer une traînée d'étincelles, voilà tout. Balsamo courut une lieue encore. Gerrit n'avait pas mis un quart d'heure à dévorer ces 2 lieues, et ce quart d'heure avait été un siècle. Tout à coup, une pensée traversa l'esprit de Balsamo. Il arrêta court sur ses jarrets nerveux le coursier aux muscles de fer. Gerrit, en s'arrêtant, plia sur ses jambes de derrière et s'enfonça les pieds de devant dans le sable. Coursier et cavalier respirèrent un instant. Tout en respirant, Balsamo releva la tête. Puis il passa un mouchoir sur ses tempes ruisselantes et, les narines dilatées au souffle de la brise, il laissa tomber dans la nuit les paroles suivantes. « Oh, pauvre insensé que tu es! Ni la course de ton cheval, ni l'ardeur de ton désir n'atteindront jamais l'instantanéité de la foudre ou la rapidité de l'étincelle électrique, et cependant c'est cela qu'il te faut pour conjurer le malheur suspendu sur ta tête. Il te faut l'effet rapide, le coup immédiat, le choc tout-puissant qui paralyse les jambes dont tu redoutes l'action, la langue dont tu crains l'essor. Il te faut, à distance, ce sommeil vainqueur par lequel tu peux ressaisir l'esclave qui a rompu la chaîne. Ah, si jamais elle rentre en ma puissance !» Et Balsamo fit, en grinçant des dents, un geste désespéré. « Oh, tu as beau vouloir, Balsamo, tu as beau courir, s'écria-t-il. Lorenza est déjà arrivée, elle va parler, elle a parlé peut-être. Oh, misérable femme, oh, tous les supplices seront trop doux pour te punir. » « Voyons, voyons, continua-t-il, le sourcil froncé, les yeux fixes, le menton dans la paume de la main, voyons, la science est un mot ou est un fait, la science peut ou ne peut pas, moi je veux. Essayons, Lorenza, Lorenza, je veux que tu dormes, Lorenza, en quelque endroit que tu sois, dors, je le veux, j'y compte. » « Ah non, non, murmura-t-il avec découragement, non, je mens, non, je n'y crois pas, non, je n'ose y compter. Et cependant la volonté est tout, oh, je veux bien fermement, cependant, je veux de toutes les puissances de mon être. Fends les airs, oh ma volonté suprême, traverse tous ces courants de volonté antipathiques, indifférentes, traverse les murailles que tu dois traverser comme le boulet, suis-la partout où elle va, frappe, anéantie. Lorenza, Lorenza, je veux que tu dormes, Lorenza, je veux que tu sois muette. » Et il tendit quelques instants sa pensée vers ce but, l'imprimant dans son cerveau comme pour lui donner plus d'élan quand elle jaillirait vers Paris. Et après cette opération mystérieuse à laquelle concoururent sans doute tous les divins atomes animés par Dieu, maître et seigneur de toutes choses, Balsamo, les dents serrées encore, les poings crispés, rendit les rênes à Gerrit, mais sans lui faire sentir cette fois ni le genou ni l'éperon. On eût dit que Balsamo voulait se convaincre lui-même. Alors le noble coursier marcha paisiblement, selon la permission tacite que lui donnait son maître, posant avec cette délicatesse particulière de sa race un pied presque silencieux tant il était léger sur le pavé de la route. Balsamo, d'ailleurs, pendant tout ce temps, qui, à des regards superficiels, eût paru perdu, Balsamo combinait tout un plan de défense. Il achevait au moment où Gerrit touchait le pavé de Sèvres. Arrivé en face de la grille du parc, il s'arrêta et regarda autour de lui. On eût dit qu'il attendait quelqu'un. Et en effet, presque aussitôt, un homme se détacha de dessous une porte cochère et vint à lui. « Est-ce toi, Fritz ?» demanda Balsamo. « Oui, maître. « T'es-tu informé ?»« Oui. « Madame du Barry est-elle à Paris ou à Lucienne ?»« Elle est à Paris. » Balsamo leva un regard triomphant vers le ciel. « Comment es-tu venu ?»« Avec Sultan. « Où est-il ?»« Dans la cour de cette auberge. « Tout scellé ?»« Tout scellé. « Très bien. Tiens-toi prêt. » Et Fritz fit détacher Sultan. C'était un de ces braves chevaux allemands de bon caractère qui murmurent bien un peu dans les marches forcées, mais qui ne vont pas moins tant qu'il ne reste du souffle dans leurs flancs et de l'éperon au talon de leur maître. Fritz revint vers Balsamo. Celui-ci écrivait sous la lanterne que messieurs les commis du pied fourché tenaient allumée toute la nuit pour leurs opérations fiscales. « Retourne à Paris, dit-il, et remets quelque part qu'elle soit ce billet à Madame du Barry, en personne, dit Balsamo. Tu as une demi-heure pour cela, après quoi tu retourneras rue Saint-Claude où tu attendras la signora Lorenza, qui ne peut manquer de rentrer. Tu la laisseras passer sans lui rien dire et sans lui opposer le moindre obstacle. Va, et rappelle-toi surtout que dans une demi-heure, ta commission doit être faite. »« C'est bien, dit Fritz, elle le sera. » En ce même temps qu'il faisait à Balsamo cette réponse rassurante, il attaquait de l'éperon et du fouet Sultan, qui partit, étonné de cette agression inaccoutumée, en poussant un hennissement douloureux. Pour Balsamo, se remettant peu à peu, il prit la route de Paris, où il entra 3 quarts d'heure après, presque frais de visage, à l'œil calme et plutôt pensif. C'est que Balsamo avait raison. Si rapide que fût Gerrit, ce fils hennissant du désert était en retard, et la volonté seule pouvait marcher aussi vite que Lorenza échappée de sa prison. De la rue Saint-Claude, la jeune femme avait gagné le boulevard, et tournant à droite, aperçut bientôt les remparts de la Bastille. Mais Lorenza, toujours enfermée, ignorait Paris. D'ailleurs, son premier but était de fuir la maison maudite dans laquelle elle ne voyait qu'un cachot. Sa vengeance venait en second. Elle venait donc de s'engager dans le faubourg Saint-Antoine, toute troublée, lorsqu'elle fut accostée par un jeune homme qui la suivait depuis quelques minutes avec étonnement. En effet, Lorenza, italienne des environs de Rome, ayant presque toujours vécu d'une vie exceptionnelle, en dehors de toutes les habitudes de la mode, de tous les costumes et de tous les usages de l'époque, Lorenza s'habillait plutôt comme une femme d'Orient que comme une européenne, c'est-à-dire toujours amplement, toujours somptueusement, ressemblant bien peu à ces charmantes poupées serrées comme des guêpes dans un long corsage et toutes frissonnantes de soie et de mousseline sous lesquelles on cherchait presque inutilement un corps, tant leur ambition était de paraître immatérielle. Lorenza n'avait donc conservé, ou plutôt adopté, du costume des Françaises d'alors que les souliers à talons de 2 pouces de haut, cette impossible chaussure qui faisait cambrer le pied, ressortir la délicatesse des chevilles et qui, dans ce siècle tant soit peu mythologique, rendait la fuite impossible aux arétuses poursuivies par les Alphées. L'Alphée, qui poursuivait notre arétuse, la joignit donc facilement. Il avait vu ses jambes divines sous ses jupes de satin et de dentelle, ses cheveux sans poudre et ses yeux brillants d'un feu étrange sous un mantelet roulé autour de la tête et du cou. Il crut voir dans Lorenza une femme déguisée, soit pour quelque mascarade, soit pour quelque rendez-vous d'amour, et se rendant à pied, faute de fiacre, à quelque petite maison du faubourg. Il s'approcha donc et, se plaçant à côté de Lorenza, le chapeau à la main, Mon Dieu, madame, dit-il, vous ne sauriez aller loin ainsi avec cette chaussure qui retarde votre marche. Voulez-vous accepter mon bras jusqu'à ce que nous trouvions une voiture et j'aurai l'honneur de vous accompagner où vous allez? Lorenza tourna la tête avec brusquerie, regarda de son œil noir et profond celui qui lui faisait une offre qui, à bon nombre de femmes, eût paru une impertinence, et s'arrêtant, « Oui, dit-elle, je le veux bien. » Le jeune homme tendit galamment le bras. « Où allons-nous, madame ? » demanda-t-il. « À l'hôtel de la lieutenance de police. » Le jeune homme tressaillit. « Chez monsieur de Sartines ? » demanda-t-il. « Je ne sais s'il s'appelle monsieur de Sartines, mais je veux parler à celui qui est lieutenant de police. » Le jeune homme commença à réfléchir. Cette femme jeune et belle, qui, sous un costume étranger, à 8 heures du soir, courait les rues de Paris, tenant une cassette sous son bras et demandant l'hôtel du lieutenant de police auquel elle tournait le dos, la rue suspecte. « Ah, diable, fit-il, l'hôtel de monsieur le lieutenant de police, ce n'est point par ici. Où est-ce ? Mais dans le faubourg Saint-Germain. Et par où va-t-on au faubourg Saint-Germain ? Par ici, madame, répondit le jeune homme, calme, quoique poli toujours. Et si vous le voulez, à la première voiture que nous rencontrerons. Oui, c'est cela, une voiture, vous avez raison. » Le jeune homme ramena Lorenza sur le boulevard, et ayant rencontré un fiacre, il l'appela. Le cocher vint à l'appel. « Où faut-il vous conduire, madame ? » demanda-t-il. « À l'hôtel de monsieur de Sartines, » dit le jeune homme. Et par un reste de politesse, ou plutôt d'étonnement, ouvrant la portière, il salua Lorenza, et après l'avoir aidée à monter, il la regarda s'éloigner, comme on fait en rêve d'une vision. Le cocher, plein de respect pour le nom terrible, fouetta ses chevaux et partit dans la direction indiquée. Ce fut alors que Lorenza traversa la place royale. Ce fut alors qu'André, dans son sommeil magnétique, l'ayant vue et entendue, la dénonça à Balsamo. En 20 minutes, Lorenza fut à la porte de l'hôtel. « Faut-il vous attendre, ma belle dame ? » demanda le cocher. « Oui, » répondit machinalement Lorenza, et légère, elle s'engouffra sous le portail du splendide hôtel. Une fois dans la cour, Lorenza se vit entourée de tout un monde d'exempts et de soldats. Elle s'adressa aux gardes françaises, qui se trouva le plus proche d'elle, et le pria de le conduire au lieutenant de police. Ce garde l'envoya au Suisse, qui, voyant cette femme si belle, si étrange, si richement vêtue, et tenant sous son bras un magnifique coffret, reconnut que la visite pouvait n'être pas oiseuse, et la fit monter par un grand escalier jusqu'à une antichambre, où, tout venant sur la sagace inquisition de ce Suisse, pouvait, à toute heure du jour ou de la nuit, apporter à monsieur de Sartines un éclaircissement, une dénonciation ou une requête. Il va sans dire que les deux premières classes de visiteurs étaient plus favorablement accueillies que la dernière. Lorenza, questionnée par un huissier, ne répondit rien, sinon ces mots « Êtes-vous monsieur de Sartines ?» L'huissier fut fort étonné qu'on pût confondre son habit noir et sa chaîne d'acier avec l'habit brodé et la perruque nuageuse du lieutenant de police. Mais comme un lieutenant ne se fâche jamais d'être appelé capitaine, comme il reconnut un accent étranger dans les paroles de cette femme, comme son œil ferme et assuré n'était pas celui d'une folle, il fut convaincu que la visiteuse apportait quelque chose d'important dans ce coffret qu'elle serrait avec tant de soin et de force sous son bras. Cependant, comme monsieur de Sartines était un homme prudent et ombrageux, comme quelques pièges lui avaient déjà été tendus, avec des appâts non moins attrayants que ceux de la belle italienne, on faisait autour de lui bonne garde. Lorenza subit donc les investigations, les interrogatoires et les soupçons d'une demi-douzaine de secrétaires et de valets. Le résultat de toutes ces demandes et de toutes ces réponses fut que monsieur de Sartines n'était point rentré et qu'il fallait que Lorenza attendît. Alors la jeune femme se renferma dans un sombre silence et laissa errer les yeux sur les murailles nues de la vaste antichambre. Enfin, le bruit d'une sonnette retentit, une voiture roula dans la cour et un second huissier vint annoncer à Lorenza que monsieur Sartines l'attendait. Lorenza se leva et traversa 2 salles pleines de gens à figures suspectes et à costumes encore plus étranges que le sien. Enfin, elle fut introduite dans un grand cabinet de forme octogone éclairé par une quantité de bougies. Un homme de 50 à 55 ans, en robe de chambre, coiffé d'une perruque énorme, toute moelleuse de poudre et de frisure, travaillait, assis devant un meuble de forme haute, dont la partie supérieure, semblable à une armoire, était fermée de deux panneaux de glace dans lesquels le travailleur voyait, sans se déranger, ceux qui pénétraient dans son cabinet et pouvaient étudier leur visage avant qu'ils eussent eu le temps de le composer sur le sien. La partie inférieure de ce meuble formait secrétaire, une quantité de tiroirs en bois de rose le garnissait au fond. Chacun de ces tiroirs fermait par la combinaison des lettres de l'alphabet. Monsieur de Sartine serrait là les papiers et les chiffres que nul de son vivant ne pouvait lire, car le meuble s'ouvrait pour lui seul, et que nul après sa mort n'eût pu déchiffrer, à moins que, dans quelque tiroir plus secret encore que les autres, il n'eût trouvé le secret du chiffre. Ce secrétaire, ou plutôt cette armoire, sous les glaces de sa partie supérieure, renfermait 12 tiroirs, également clos par un mécanisme invisible. Ce meuble, construit exprès par le régent pour enfermer des secrets chimiques ou politiques, avait été donné par le prince à Dubois et laissé par Dubois à M. d'Ombreval, lieutenant de police. C'est de ce dernier que M. de Sartine tenait le meuble et le secret. Toutefois, M. de Sartine n'avait consenti à s'en servir qu'après la mort du donateur, et encore avait-il fait changer toutes les dispositions de la serrure. Ce meuble avait quelque réputation de par le monde, et fermait trop bien, disait-on, pour que M. de Sartine n'y renfermât que ses perruques. Les frondeurs, et il y en avait bon nombre à cette époque, disaient que si on avait pu lire à travers les panneaux de ce meuble, on eût bien certainement trouvé dans un de ces tiroirs ces fameux traités en vertu desquels Sa Majesté Louis XV agiotait sur les blés par l'intermédiaire de son agent dévoué, M. de Sartine. Monsieur le lieutenant de police vit donc dans la glace en biseau se refléter la pâle et sérieuse figure de Lorenza qui s'avançait vers lui, son coffret sous le bras. Au milieu du cabinet, la jeune femme s'arrêta. Ce costume, cette figure, cette démarche frappèrent le lieutenant. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il sans se retourner, mais en regardant dans la glace. « Que me voulez-vous ? » « Suis-je, répondit Lorenza, devant M. de Sartine, lieutenant de police ?»« Oui, répondit brièvement celui-ci. Qui me l'affirme ?» M. de Sartine se retourna. « Sera-ce une preuve pour vous que je suis l'homme que vous cherchez, dit-il, si je vous envoie en prison ?» Lorenza ne répliqua point. Seulement elle regarda autour d'elle avec cette inexprimable dignité des femmes de son pays pour chercher le siège que M. de Sartine ne lui offrait pas. Il fut vaincu par ce seul regard, car c'était un homme assez bien élevé que M. le comte d'Albi de Sartine. « Asseyez-vous, dit-il brusquement. Lorenza tira un fauteuil à elle et s'assit. « Parlez vite, dit le magistrat, voyons, que me voulez-vous ? Monsieur, dit la jeune femme, je viens me mettre sous votre protection. Monsieur de Sartine la regarda de ce regard narquois qui lui était particulier. Ah ah, fit-il. Monsieur, continua Lorenza, j'ai été enlevée à ma famille et soumise par un mariage menteur à un homme qui, depuis 3 ans, m'opprime et me fait mourir de douleur. Monsieur de Sartine regarda cette noble physionomie et se sentit remué par cette voix d'un accent si doux qu'on eût dit un chant. « De quel pays êtes-vous » demanda-t-il. « Romaine. Comment vous appelez-vous » « Lorenza. »« Lorenza qui ?»« Lorenza Feliciani. »« Je ne connais pas cette famille-là. Êtes-vous demoiselle ?» Demoiselle, on le savait, signifiait à cette époque fille de qualité. De nos jours, une femme se trouve assez noble du moment où elle se marie, elle ne tient plus qu'à être appelée madame. « Je suis demoiselle, dit Lorenza. Après, vous demandez ? Eh bien, je demande justice de cet homme qui m'a incarcéré, séquestré. « Cela ne me regarde pas, dit le lieutenant de police, vous êtes sa femme. » Il le dit, du moins. « Comment il le dit ? « Oui, mais je ne m'en souviens point, moi, le mariage ayant été contracté pendant mon sommeil. »« Peste, vous avez le sommeil dur. »« Plaît-il ? Je dis que cela ne me regarde point. Adressez-vous à un procureur et plaidez. Je n'aime pas me mêler des affaires de ménage. » Sur quoi M. de Sartine fit un geste de la main qui signifiait « Allez-en ». Lorenza ne bougea point. « Eh bien ?» demanda M. de Sartine, étonné. « Je n'ai pas fini, dit-elle, et si je viens ici, vous devez comprendre que ce n'est point pour me plaindre d'une frivolité, c'est pour me venger. Je vous ai dit, mon pays, les femmes de mon pays se vengent et ne se plaignent pas. » « C'est différent, dit Monsieur de Sartine, mais dépêchez-vous, belle dame, mon temps est cher. Je vous ai dit que je venais à vous pour vous demander protection. L'aurais-je ? Protection contre qui ? Contre l'homme de qui je veux me venger. Il est donc puissant ? Plus puissant qu'un roi. Voyons, expliquons-nous, ma chère dame. Pourquoi vous accorderais-je ma protection contre un homme de votre avis plus puissant que le roi pour une action qui est peut-être un crime? Si vous avez à vous venger de cet homme, vengez-vous-en, cela m'importe peu à moi. Seulement, si vous commettez un crime, je vous ferai arrêter, après quoi nous verrons, voilà la marche. Non, monsieur, dit Lorenza, non, vous ne me ferez point arrêter, car ma vengeance est d'une grande utilité pour vous, pour le roi, pour la France. Je me venge en révélant les secrets de cet homme. Ah, cet homme a des secrets, dit M. de Sartine, intéressé malgré lui. De grands secrets, monsieur. De quelle sorte? Politique. Dites. Mais enfin, me protégerez-vous? Quelle espèce de protection me demandez-vous? Fit le magistrat avec un froid sourire. Argent ou affection? Je demande, monsieur, à entrer dans un couvent et à y vivre ignoré, enseveli. Je demande que ce couvent devienne une tombe, mais que ma tombe ne soit jamais violée par qui que ce soit au monde. Ah, dit le magistrat, ce n'est pas d'une exigence bien grande. Vous aurez le couvent. Parlez. Ainsi, j'ai votre parole, monsieur. Je crois vous l'avoir donnée, ce me semble. Alors, dit Lorenza, prenez ce coffret, il renferme des mystères qui vous feront trembler pour la sûreté du roi et du royaume. Ces mystères, vous les connaissez donc? Superficiellement, je sais qu'ils existent, et qu'ils sont importants, qu'ils sont terribles. Des mystères politiques, dites-vous. N'avez-vous jamais entendu dire qu'il existait une société secrète? Ah, celle des maçons! Celle des invisibles. Oui, mais je n'y crois pas. Quand vous aurez ouvert ce coffret, vous y croirez. Ah ! S'écria M. de Sartine vivement, voyons ! Et il prit le coffret des mains de Lorenza. Puis tout à coup, ayant réfléchi, il le posa sur le bureau. Non, dit-il avec défiance, ouvrez le coffret vous-même. Mais moi, je n'en ai point la clé. Comment ? Vous n'en avez point la clé, vous m'apportez un coffret qui renferme le repos d'un royaume, et vous en oubliez la clé. Est-il donc si difficile d'ouvrir une serrure? Non, quand on la connaît. Puis après un instant, nous avons ici, continua-t-il, des clés pour toutes les serrures. On va vous en donner un trousseau, il regarda fixement Lorenza, et vous ouvrirez vous-même. Donnez, dit simplement Lorenza. Monsieur de Sartine tendit à la jeune femme un trousseau de petites clés ayant toutes les formes. Elle le prit. Monsieur de Sartine toucha sa main. Elle était froide comme une main de marbre. « Mais, dit-il, pourquoi n'avez-vous pas apporté la clé du coffret ?»« Parce que le maître du coffret ne s'en sépare jamais. »« Et le maître du coffret, cet homme plus puissant qu'un roi, quel est-il ?» Ce qu'il est, personne ne peut le dire. Le temps qu'il a vécu, l'éternité seule le sait. Les faits qu'il accomplit, nul ne les voit que Dieu. Mais son nom, son nom! Je l'ai vu en changer 10 fois de nom. Enfin, celui sous lequel vous le connaissez, vous. Acarat. Et il demeure rue Saint. Tout à coup, Lorenza tressaillit, frissonna, laissa tomber le coffret qu'elle tenait d'une main et les clés qu'elle tenait de l'autre. Elle fit un effort pour répondre, sa bouche se tordit dans une convulsion douloureuse. Elle porta ses 2 mains à la gorge, comme si les mots, près de sortir, l'eussent étranglée. Puis, levant au ciel ses deux bras tremblants, sans avoir pu articuler un son, elle tomba de sa hauteur sur le tapis du cabinet. « Pauvre petite, murmura monsieur de Sartines, que diable lui arrive-t-il donc? C'est qu'elle est vraiment fort jolie. Allons, allons, il y a de l'amour jaloux dans cette vengeance-là. » Il sonna aussitôt et releva lui-même la jeune femme qui, les yeux étonnés, les lèvres immobiles, semblait morte et déjà détachée de ce monde. Deux valets entrèrent. « Enlevez avec précaution cette jeune dame, dit le lieutenant de police, et la portez dans la chambre voisine. Tâchez qu'elle reprenne ses sens, surtout pas de violence. Allez !» Les valets obéissants emportèrent Lorenza. Resté seul, monsieur de Sartine prit, tourna et retourna le coffret en homme qui sait apprécier la valeur d'une découverte. Puis il allongea la main et ramassa le trousseau de clés tombé des mains de Lorenza. Il les essaya toutes, aucune n'allait. Il tira trois ou quatre trousseaux pareils de son tiroir. Ces trousseaux contenaient des clés de toutes dimensions, clés de meubles, clés de coffret, bien entendu. Depuis la clé usitée jusqu'à la clé microscopique, on peut dire que M. de Sartines possédait un échantillon de toutes les clés connues. Il en essaya 20, 50, 100 au coffret, aucune ne fit même un tour. Le magistrat en augura que la serrure était une apparence de serrure et que par conséquent ces clés étaient des simulacres de clés. Alors il prit dans le même tiroir un petit ciseau, un petit marteau, et de sa main blanche enfoncée sous une ample manchette de maline, il fit sauter la serrure, gardienne fidèle du coffret. Aussitôt, une liasse de papier lui apparut au lieu des machines foudroyantes qu'il redoutait d'y trouver, ou des poisons dont l'arôme devait s'exhaler mortellement et priver la France de son magistrat le plus essentiel. Les premiers mots qui sautèrent aux yeux du lieutenant de police furent ceux-ci, tracés par une main dont l'écriture était passablement déguisée. « Maître, il est temps de quitter le nom de Balsamo. » Il n'y avait pas de signature, mais seulement ces trois lettres, L.P.D. « Ah !» fit-il en retournant les boucles de sa perruque. « Ah, si je ne connais pas l'écriture, je crois que je connais le nom. Balsamo, voyons, cherchons B. » Il ouvrit alors un de ses 24 tiroirs et en tira un petit registre sur lequel, par ordre alphabétique, était écrit d'une fine écriture pleine d'abréviations, 300 ou 400 noms précédés, suivis et accompagnés d'accolades flamboyantes. « Oh » murmura-t-il, « en voilà long sur ce Balsamo !» Et il lut toute la page avec des signes non équivoques de mécontentement. Puis il replaça le petit registre dans son tiroir pour continuer l'inventaire du coffret. Il n'alla pas bien loin sans être profondément impressionné, et bientôt il trouva une note pleine de noms et de chiffres. La note lui parut importante, elle était fort usée aux marges, fort chargée de signes faits au crayon. Monsieur de Sartine sonna, un domestique parut. « L'aide de la chancellerie, dit-il tout de suite, faites passer des bureaux à travers l'appartement pour économiser le temps. » Le valet sortit. Deux minutes après, un commis, la plume à la main, le chapeau sous le bras, un gros registre sous l'autre, des manches de serge noir passées sur ses manches d'habit, se présentait au seuil du cabinet. Monsieur de Sartine l'aperçut dans son meuble à glace et lui tendit le papier par-dessus son épaule. « Déchiffrez-moi cela, dit-il. » « Oui, monseigneur, répondit le commis. Ce devineur de charade était un petit homme mince, aux lèvres pincées, aux sourcils froncés par la recherche, à la tête pâle et pointue du haut en bas, au menton effilé, au front fuyant, aux pommettes saillantes, aux yeux enfoncés et ternes qui s'animaient par instants. Monsieur de Sartine l'appelait la fouine. « Asseyez-vous, » lui dit le magistrat, le voyant embarrassé de son calepin, de son codex de chiffres, de sa note et de sa plume. La fouine s'assit modestement sur un tabouret, rapprocha ses jambes et se mit à écrire sur ses genoux, feuilletant son dictionnaire et sa mémoire avec une physionomie impassible. Au bout de 5 minutes, il avait écrit « Ordre d'assembler 3000 frères à Paris ». Ordre de composer 3 cercles et 6 loges. ordre de composer une garde au grand Koft et de lui ménager 4 domiciles, dont un dans une maison royale. Ordre de mettre 500 000 francs à sa disposition pour une police. Ordre d'enrôler dans le premier des cercles parisiens toute la fleur de la littérature et de la philosophie. Ordre de soudoyer ou de gagner la magistrature et de s'assurer particulièrement du lieutenant de police par corruption, par violence ou par ruse. La fouine s'arrêta là un moment, non point que le pauvre homme réfléchît, il n'en avait garde, c'eût été un crime, mais parce que, sa page étant remplie et l'encre encore fraîche, il fallait attendre pour continuer. Monsieur de Sartine, impatient, lui arracha la feuille des mains et lut. Au dernier paragraphe, une telle expression de frayeur se peignit sur tous ses traits qu'il pâlit de se voir pâlir dans la glace de son armoire. Il ne rendit pas la feuille au commis, mais lui en passa une toute blanche. Le commis recommença à écrire à mesure qu'il déchiffrait, ce qu'il exécutait au reste avec une facilité effrayante pour les faiseurs de chiffres. Et cette fois, M. de Sartine lut par-dessus son épaule. Il lut donc « Se défaire à Paris du nom de Balsamo, qui commence à être trop connu, pour prendre celui de comte de fée. » Le reste du mot était enseveli dans une tache d'encre. Au moment où M. de Sartine cherchait les syllabes absentes qui devaient composer le mot, la sonnette retentit à l'extérieur et un valet entra annonçant « Monsieur le comte de Phénix ». Monsieur de Sartine poussa un cri, et au risque de démolir l'édifice harmonieux de sa perruque, il joignit les mains au-dessus de sa tête et se hâta de congédier son commis par une porte dérobée. Puis, prenant sa place devant son bureau, il dit au valet « Introduisez ». Quelques secondes après, dans sa glace, Monsieur de Sartine aperçut le profil sévère du comte que déjà il avait entrevu à la cour le jour de la présentation de Madame du Barry. Balsamo entra sans hésitation aucune. Monsieur de Sartine se leva, fit une froide révérence au comte, et croisant une jambe sur l'autre, il s'adossa cérémonieusement à son fauteuil. Au premier coup d'œil, le magistrat avait entrevu la cause et le but de cette visite. Du premier coup d'œil aussi, Balsamo venait d'entrevoir la cassette ouverte et à moitié vidée sur le bureau de Monsieur de Sartine. Son regard, si fugitivement qu'il eût passé sur le coffret, n'échappa point à Monsieur le lieutenant de police. « À quel hasard dois-je l'honneur de votre présence, Monsieur le comte ?» demanda Monsieur de Sartine. « Monsieur, répondit Balsamo avec un sourire plein d'aménité, j'ai eu l'honneur d'être présenté à tous les souverains de l'Europe, à tous ses ministres, à tous les ambassadeurs, mais je n'ai trouvé personne qui me présentât chez vous. Je viens donc me présenter moi-même. » « En vérité, monsieur, répondit le lieutenant de police, vous arrivez à merveille, car je crois bien que si vous ne fussiez pas venu de vous-même, j'allais avoir l'honneur de vous mander ici. » « Ah, voyez, monsieur, dit Balsamo, comme cela se rencontre. » Monsieur de Sartine s'inclina avec un sourire ironique. « Est-ce que je serai assez heureux, monsieur, continua Balsamo, pour pouvoir vous être utile ?» Et ces mots furent prononcés sans qu'une ombre d'émotion ou d'inquiétude rembrunît sa physionomie souriante. « Vous avez beaucoup voyagé, monsieur le comte, demanda le lieutenant de police. » Beaucoup, monsieur. Ah, vous désirez quelques renseignements géographiques, peut-être. Un homme de votre capacité ne s'occupe pas seulement de la France, il embrasse l'Europe, le monde. Géographique n'est pas le mot, monsieur le comte. Moral serait plus juste. Ne vous gênez pas, je vous prie, pour l'un comme pour l'autre, je suis à vos ordres. « Eh bien, monsieur le comte, figurez-vous que je cherche un homme très dangereux, ma foi, un homme qui semble être tout ensemble athée, oh, conspirateur, oh, faussaire, oh, adultère, faux monnayeur, empirique, charlatan, chef de secte, un homme dont j'ai l'histoire sur mes registres, dans cette cassette que vous voyez partout. » « Ah oui, je comprends, dit Balsamo, vous avez l'histoire, mais vous n'avez pas l'homme. »« Non. Diable, ce serait plus important, ce me semble. Sans doute, mais vous allez voir comme nous sommes près de le tenir. Certes, Protée n'a pas plus de forme, Jupiter n'a pas plus de nom que n'en a ce mystérieux voyageur. Acarate en Égypte, Balsamo en Italie, Sominy en Sardaigne, Marquis d'Anna à Malte, Marquis Pellegrini en Corse, enfin, comte de... Comte de, ajouta Balsamo. C'est ce dernier nom, monsieur, que je n'ai pas bien pu lire, mais vous m'aiderez, n'est-ce pas? J'en suis sûr, car il n'est point que vous n'ayez connu cet homme pendant vos voyages et dans chacune des contrées que j'ai citées tout à l'heure. Renseignez-moi un peu, voyons, dit Balsamo avec tranquillité. Ah, je comprends, vous désirez une sorte de signalement, n'est-ce pas, monsieur le comte? Oui, monsieur, s'il vous plaît. Eh bien, dit monsieur de Sartine en fixant sur Balsamo un œil qu'il essayait de rendre inquisiteur, c'est un homme de votre âge, de votre taille, de votre tournure, tantôt grand seigneur, semant l'or, tantôt charlatan, cherchant les secrets naturels, tantôt affilié sombre de quelque confrérie mystérieuse, qui jure dans l'ombre la mort des rois, l'écroulement des trônes. Oh, dit Balsamo, c'est bien vague. Comment bien vague? Oh, si vous saviez combien j'ai vu d'hommes qui ressemblent à ce portrait. En vérité, sans doute, et vous ferez bien de préciser un peu, si vous voulez que je vous aide. D'abord, savez-vous en quel pays il habite de préférence? Il les habite tous. Mais en ce moment, par exemple, en ce moment, il est en France. Et qu'y fait-il en France? Il dirige une immense conspiration. Ah, voilà un renseignement, à la bonne heure. Et si vous savez quelle conspiration il dirige, eh bien, vous tenez un fil au bout duquel, selon toute probabilité, vous trouverez votre homme. Je le crois, comme vous. Eh bien, si vous le croyez, pourquoi en ce cas me demandez-vous conseil? C'est inutile. Ah, c'est que je me consulte encore. Sur quoi? Sur ceci. Dites, le ferais-je arrêter, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Je ne comprends pas le nom, monsieur le lieutenant de police, car enfin, s'il conspire... Oui, mais il s'est un peu garanti par quelque nom, par quelque titre. Hein. Ah, je comprends, mais quel nom, quel titre? Il faudrait me dire cela pour que je vous aidasse dans vos recherches, monsieur. Eh bien, je vous l'ai déjà dit, je sais le nom sous lequel il se cache, mais vous ne savez point celui sous lequel il se montre, n'est-ce pas? Justement, sans quoi, vous le feriez arrêter immédiatement. Eh bien, mon cher monsieur de Sartine, c'est bien heureux, comme vous me le disiez tout à l'heure, que je sois arrivé en ce moment, car je vais vous rendre le service que vous me demandez. Vous? Oui. Vous allez me dire son nom? Oui. Le nom sous lequel il se montre? Oui. Vous le connaissez donc? Parfaitement. Et quel est ce nom? Demanda monsieur de Sartine en expectative de quelque mensonge. Le comte de Phénix. Comment, le nom sous lequel vous vous êtes fait annoncer? Le nom sous lequel je me suis fait annoncer, oui. Votre nom? Mon nom? Alors, cet Acarat, ce Sominy, ce marquis d'Anna, ce marquis Pellegrini, ce Joseph Balsamo, c'est vous? Mais oui, dit simplement Balsamo, c'est moi-même. Monsieur de Sartine prit une minute pour se remettre de l'éblouissement que lui causa cette effrontée franchise. J'avais deviné, vous voyez, dit-il, je vous connaissais, je savais que ce Balsamo et ce comte de Phénix ne faisaient qu'un. Vous êtes un grand ministre, dit Balsamo, je l'avoue. Et vous, un grand imprudent, dit le magistrat en se dirigeant vers sa sonnette. Imprudent? Pourquoi? Parce que je vais vous faire arrêter. Allons donc, répliqua Balsamo en faisant un pas entre la sonnette et le magistrat. Est-ce qu'on arrête, moi? Et pardieu, que ferez-vous pour m'en empêcher, je vous le demande? Vous me le demandez. Oui, mon cher lieutenant de police, je vais vous brûler la cervelle. et Balsamo sortit de sa poche un charmant pistolet monté en vermeil que l'on eût cru ciselé par Benvenuto Cellini, qu'il dirigea tranquillement vers le visage de monsieur de Sartine, qui pâlit et tomba dans un fauteuil. « Là, » dit Balsamo, en attirant un autre fauteuil près de celui du lieutenant de police et en s'asseyant, « maintenant, nous voilà assis, nous pouvons causer un peu. »